France Info.
On saura peut-être s'il fait un dans l'un dans votre prochaine météo dans 10 minutes. Merci à tous d'écouter France Info en ce 12 mars. Il est 5 heures. Et à la une de ce premier journal, Donald Trump qui affirme que l'Iran est proche de la défaite, mais la guerre ne va pas s'arrêter tout de suite, prévient le président américain. Les États-Unis qui, comme la France, vont débloquer une partie de leurs réserves de pétrole pour faire baisser les prix. Tentez en tout cas, on vous explique tout dans un instant. Et on sera de l'autre côté de la frontière espagnole, dans le Pays Basque, où ce n'est quasiment plus intéressant d'aller faire son plein quand on est français. À la une aussi, 500 millions d'euros détournés des caisses de l'État en 2 ans. C'est la conséquence des fraudes massives à la carte grise. Et puis la démonstration du Paris Saint-Germain, victoire 5-2 pour les Parisiens contre Chelsea à l'aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. À Bahreïn, les autorités demandent aux habitants de rester chez eux après de nouvelles attaques visiblement iraniennes contre des réservoirs de pétrole. À nouveau, l'Arabie Saoudite dit avoir neutralisé un drone qui s'approchait du quartier des ambassades dans la capitale de Riyad. Téhéran continue donc de riposter face aux frappes menées par Israël et par les Américains. D'ailleurs, ces frappes américaines, combien de temps vont-elles encore durer sur l'Iran ? Les États-Unis sont-ils près de leur but ? Oui, assure Donald Trump devant des partisans qui étaient réunis pour un meeting dans le Kentucky cette nuit. Mais le président américain dit que cette guerre va encore durer.
On ne veut pas partir trop tôt, n'est-ce pas ? On doit finir le travail. Ces 11 derniers jours, notre armée a pratiquement détruit l'Iran. Leur force aérienne est hors service complètement, ça a été réglé en 3 heures. Ils n'ont plus de radar, plus d'équipement de défense anti-aérienne, ils n'ont plus rien. Leurs missiles sont réduits de 90%, leurs drones de 85%. Nous détruisons les usines où ils sont fabriqués en long et en large. Et franchement, personne n'a jamais rien vu de tel.
Le président américain qui a confirmé hier soir que les États-Unis vont puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour atténuer la hausse des prix du baril. La France aussi, comme tous les autres membres de l'Agence internationale de l'énergie, va débloquer une partie de son stock. Raphaël Ebenstein, sur les 400 millions de barils qui pourraient être remis sur le marché, 14 millions seraient français.
Jusqu'à 14,5 millions de barils précisément pourraient être extraits par étape des stocks stratégiques de la France et contribuer ainsi en partie à compenser le blocage du détroit d'Ormuz au sud de l'Iran. Cela représente un peu plus de 15% du total des stocks français. Ils sont constitués de pétrole brut, mais aussi d'essence raffinée, gazole et même kérosène, répartis dans 89 sites différents à travers le pays, dépôts, raffineries, même souterrains, dont la localisation est évidemment secrète. C'est censé couvrir 4 mois de consommation moyenne. Le déblocage coordonné décidé à l'échelle des 32 pays de l'Agence internationale de l'énergie vise surtout à éviter un emballement sur les marchés, une hausse incontrôlable du prix du baril. La précédente opération du même type, mais de moindre ampleur, s'était déroulée en 2022 après l'invasion russe en Ukraine.
Merci Raphaël Ebenstein. Alors pour l'heure, ces annonces ne calment pas les marchés. On le disait, la barre des 100 dollars pour le baril de Brent vient à nouveau d'être dépassée. Et cela va sans doute se ressentir très vite à la pompe. Tout cela après la flambée des prix déjà constatée depuis une dizaine de jours, à tel point que passer la frontière pour aller faire le plein à l'étranger n'est même plus vraiment synonyme de bonne affaire. Exemple au Pays Basque, Hugo Marceau. Aller côté espagnol, ce n'est plus un bon plan.
Quand on est endaillé, passer la frontière pour faire le plein, c'est de coutume.
J'ai pas regardé les prix ici, mais de toute façon, moi je vais toujours de l'autre côté.
Hélène roule peu, elle ne s'est pas ravitaillée en gasoil depuis le début du conflit.
Et c'est vrai que la dernière fois où j'ai fait le plein, il était à 1,31. Quand je suis passée dernièrement, ça avait augmenté de 40 centimes. Quoi.
Confirmation sur place, 5 km derrière la frontière à Irun.
C'est pas moins cher.
Julie rit jaune, les yeux rivés sur le compteur pendant que le gasoil s'écoule.
Je viens tout le temps mettre l'essence ici. Il y a 50 centimes de différence entre il y a 10 jours.
Le grand panneau numérique indique désormais 1,89€ le litre.
C'est pour ça que je ne mets pas le plein. Je ne mets que 20€.
Carta ou...
Non, espèce.
Comme au nord, le prix augmente au fil des livraisons, mais ici, où les volumes distribués sont les plus importants d'Espagne, elles sont quotidiennes selon Asier, le pompiste.
À peu près 5 à 10 centimes de plus par jour.
Résultat, ils voient moins de plaques françaises dans la file ces derniers jours.
En regardant de plus près, ils ont bien vu que la différence a diminué. Certains nous ont dit que le litre de diesel est à 1,99 au Leclerc de Rugne. Ça fait seulement 16 centimes d'écart.
Certains allongent donc la virée de 5 5 km supplémentaires jusqu'à une grande surface où le litre de gasoil est depuis le début de semaine figé à 1,66 €.
Reportage ici Pays Basque d'Hugo Marceau pour France Info. Il est 5h05, l'aéroport de Berlin a été paralysé une partie de la journée d'hier après les signalements d'un drone. Aucun décollage ou atterrissage dans l'aéroport pendant une demi-heure. L'objet non identifié n'a pas été repéré à nouveau. Plusieurs incidents du genre ont eu lieu ces derniers mois en Allemagne et plus largement en Europe. La Russie est souvent pointée du doigt dans ses affaires. Une personne est morte à Paris hier et 3 ont été blessés grièvement dans l'incendie d'un immeuble dans le 9e arrondissement de la capitale, rue du Faubourg-Montmartre. L'origine de ce feu est pour l'heure inconnue. 1 million de voitures et de véhicules plus largement circulant en France en ce moment sont immatriculés de manière frauduleuse. C'est ce que révèle et dénonce un rapport de la Cour des comptes. Fraude massive sur le site qui permet d'obtenir une carte grise et une fraude massive rendue possible depuis 2017 quand les démarches ont été dématérialisées. Désormais, un garagiste, par exemple, habilité, peut tout faire en ligne pour l'automobiliste pour lui obtenir sa plaque d'immatriculation. Et la Cour des comptes, Tristan Barraud, décrit des faits très graves et elle appelle même à une reprise en main urgente par l'État.
Pour tromper les services de l'État, les fraudeurs ne manquent pas d'imagination. Une trentaine de procédés ont été identifiés. Hacking des ordinateurs de garagistes, usurpation d'identité ou encore celui du garage fictif des entreprises officiellement répertoriées dans la catégorie commerce automobile qui réussissent à obtenir facilement en ligne l'habilitation pour délivrer des plaques d'immatriculation. Sauf qu'il s'agit d'entités fictives, sans locaux. Les papiers sont ensuite souvent vendus sur les réseaux sociaux moins chers. L'une des sociétés a même effectué 265 000 opérations en 3 ans. Dans certains cas, la technique permet aussi d'anonymiser la carte grise. En clair, une totale impunité en cas d'infraction routière. Un préjudice pour l'État et les collectivités locales, amende impayée, taxe d'immatriculation non réglée, ça représente environ 550 millions d'euros au moins sur les 2 ans étudiés pour la Cour des comptes. Et un préjudice aussi pour les garagistes victimes de piratage. La Cour appelle notamment les pouvoirs publics à renforcer les exigences avant d'octroyer à des professionnels le droit de délivrer une plaque d'immatriculation.
Les précisions de Tristan Barraud. Le PSG redresse la barre, c'est le moins que l'on puisse dire. Après une période de moins bien sur la scène française et européenne, les Parisiens ont brillé hier soir en Ligue des Champions. Ils ont battu les Londoniens de Chelsea au Parc des Princes. 5-2 en match aller des 8e de finale. Xavier Monferrand est donc très bien parti pour une qualification pour les quarts.
Difficile de garder la tête froide avec ce PSG-là, c'est temps en perdre son latin pour les supporters, comme Maxime qui se voit déjà en finale, enfin presque.
Je pense qu'on est bien. Comme on dit, on a un pied et 4 orteils en quart.
La finale, elle est encore loin et d'ici là, c'est tout sauf une promenade de santé, à commencer par le match retour à Londres mardi prochain. Mais oui, le PSG a de quoi voir venir, reconnaît le défenseur Lucas Hernandez.
On a pu avoir ce score formidable, qui va nous protéger un peu pour le match de mardi. Mais bon, il reste encore 90 minutes là-bas, 90 minutes aussi compliqué que ceux de ce soir. Alors il va falloir être prêt et bien sûr, l'objectif c'est de passer cette phase.
Même l'adversaire Chelsea a bien compris que la qualification avait du plomb dans l'aile et le défenseur français des Blues, Wesley Fofana, tente de faire bonne figure.
Un immense exploit, je sais pas, mais c'est possible, tout est possible dans la vie. 3 buts à remonter, on va tout faire pour. On a rien à perdre et on va essayer en tout cas.
Et les chiffres sont avec le PSG. Jamais aucune équipe n'a été éliminée de la Ligue des Champions après avoir gagné 5-2 au match aller.
Merci Xavier Monferrand. Et puis une mésaventure pour un fan du Barça qui avait fait le déplacement il y a 2 jours en Angleterre pour assister au match de son équipe en Ligue des Champions contre Newcastle. Au lieu d'aller au stade de St James Park de Newcastle, il est allé au St James Park d'Exeter, c'est toujours en Angleterre, mais à 600 km, c'est le stade d'un club de 3e division. Il s'est sans doute trompé dans son GPS. Le club de 3e division, beau jeu, qui lui a offert une place pour leur match en guise de consolation. Christine Peña, à 5h09, faisons un point sur la météo avec une belle accalmie.
Mais oui, là le soleil s'est pas trompé, hein. Il a pris l'avantage largement pour aujourd'hui. Ça sera que très éphémère, hein, puisqu'on a déjà des nuages qui arriveront et on les verra arriver. Ils seront nombreux dès cet après-midi vers les côtes de la Manche, la Bretagne. Quelques petites pluies faibles d'ailleurs d'ici ce soir. Le vent qui va se lever. Mmh. Et là, on a un vaste système dépressionnaire, hein, une belle séquence pluvieuse et très venteuse qui va nous concerner entre vendredi et samedi. D'ailleurs, samedi, sur les massifs, nous aurons énormément de neige et pas mal de pluie sur la région PACA. Mmh. On a froid ce matin. Il fait 2 à Nancy, 4 à Tours, 6 à Lyon, à Paris, à Rennes. Rennes, à Besançon et dans l'Ain, Bourg-en-Bresse. Bien, il fait 6 degrés.
Ah non, il ne fait pas 1 dans l'Ain. Bah bon, non. Bah tant pis. Merci beaucoup, Christine Peña.
France Info, partenaire de la Fédération Française de Volley. Les finales de la Coupe de France de Volley reviennent à Paris. Le 28 mars, ne manquez pas l'événement Volley de l'année à l'Adidas Arena. À 15h30, place à la finale féminine et à 20h30, vibrez avec la finale masculine. Réservez vite vos places sur ffvolley.org.
Ce qui vous attend sur France Info d'ici 5h30, le témoignage d'une Iranienne recueillie par la rédaction internationale. Elle raconte son quotidien entre les bombardements d'un côté et la répression du régime de l'autre, toujours plus féroce. Ce sera dans 10 minutes. D'abord, ouvrons une page municipale.
France Info, 5h-6h, William Gecosta. France Info, municipale 2026.
On le rappelle, le premier tour, c'est dimanche. Dans un instant, nous serons au Havre où le président d'Horizon, Édouard Philippe, maire de la ville, remet son poste en jeu. Et il est menacé, tout cela hypothèque peut-être sa candidature à la présidentielle. Nous serons donc au Havre dans un instant. Mais d'abord, intéressons-nous aux enjeux pour les insoumis dans ces municipales. Chaque jour, France Info fait le point pour chacun des grands partis. Nous avons déjà fait les Républicains, le Parti Socialiste. Alors aujourd'hui, intéressons-nous à LFI. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour à tous.
Service politique de France Info. Alors cette année, les Insoumis, ils assument pour la première fois des ambitions dans cette campagne des municipales.
Oui, changement radical de braquet par rapport à 2020, aux dernières élections municipales. La France Insoumise n'existe que depuis 4 ans. Alors le mouvement se contente de soutenir des listes citoyennes dans environ une centaine de communes. 6 ans après, LFI est présent dans 504 communes très précisément, dont 380 avec une tête de liste insoumise selon les chiffres du parti.
Et dans quelle ville les insoumis peuvent-ils espérer une victoire ?
Eh bien pas énormément a priori, la victoire la plus probable c'est Roubaix dans le Nord. Les sondages donnent le candidat LFI David Guiraud très largement en tête. Cela serait la première fois que les insoumis dirigent une ville d'environ 100 000 habitants. Pour le moment, LFI n'a qu'une dizaine de mairies, surtout des communes petites ou moyennes.
Alors Élie, pourquoi les Insoumis s'investissent autant dans les municipales cette année ?
Alors il y a deux raisons. En plus de l'envie de diriger des villes et d'en piquer au reste de la gauche pour affaiblir les rivaux des Insoumis, notamment les socialistes. D'abord, les sénatoriales, car qui dit conseillers municipaux dit grands électeurs pour les élections sénatoriales de septembre. Beaucoup de choses se jouent au Sénat, martèle un député insoumis. L'autre raison, c'est 2027, l'élection présidentielle l'an prochain. L'enjeu, c'est d'être partout, à l'Assemblée nationale, dans les mairies, au Sénat, pour préparer la candidature quasi certaine de Jean-Luc Mélenchon. Confirmation d'un cadre insoumis. Les municipales, c'est une répétition générale de la présidentielle.
Élie, le premier tour donc se tient dimanche, alors que les filles sortent tout juste d'un tunnel de polémique.
Oui, entre autres, ces nouvelles accusations d'antisémitisme qui visent Jean-Luc Mélenchon. Quelle influence sur les électeurs ? Ce matraquage médiatique consolide notre socle, nous renforce, jure une députée LFI. Mais un candidat insoumis au municipal est plus pessimiste. Cela serait faux de vous dire qu'on ne nous parle pas des sorties de Jean-Luc Mélenchon.
Merci beaucoup Elia Bergel du service politique de France Info. Et vous évoquiez cette guerre à gauche. L'exemple peut-être lors de ces municipales le plus marquant de cette opposition, c'est Marseille où le maire sortant d'hiver gauche, Benoît Payan, fera face dimanche lors du premier tour à une liste des insoumis. Le candidat LFI, c'est Sébastien Delogu qui espère créer la surprise en misant sur les voix des quartiers populaires. Il est à la tête de la liste LFI qui semble irréconciliable avec celle du Parti Socialiste. Sébastien Delogu qui est au micro France Info de Mathilde Vinceneux.
Nous sommes les seuls à appeler à l'union, nous sommes les seuls à avoir aujourd'hui tendu la main, nous sommes les seuls à dire qu'au second tour, nous proposerons l'union si nous arrivons en tête dès le 15 mars. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect programmatique et c'est un peu comme une primaire à gauche. Qu'est-ce que les Marseillaises et les Marseillais aujourd'hui souhaitent voir émerger comme programme pour leur ville, pour leur vie tout simplement. Et puis on verra le soir du premier tour, mais en tout cas nous avons toujours fait en sorte de faire barrage au Rassemblement National, à leurs idées surtout, et nous ferons en sorte d'appliquer un programme qui soit cohérent et complet pour la vie des Marseillaises et des Marseillais. Moi je vois les sondages et je vois ce qu'ils essaient de propulser, c'est-à-dire laisser le le maire socialiste, macroniste, compatible en place dans un système politique et essayer d'écarter le plus possible Sébastien Delogu. Moi, ça ne m'intéresse pas, les sondages ne m'intéressent pas. Ils sont d'ailleurs tous trompés lors des législatives, lors des européennes dernières, où ils donnaient le Rassemblement National gagnant et puis c'est le nouveau Front Populaire qui a gagné. Donc bon, vous avez compris que ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'action politique que nous menons sur le terrain, où nous allons voir toute une population qui d'habitude ne se mobilise pas, ou est très peu mobilisable, et donc nous essayons justement de les faire sortir en leur expliquant tout l'aspect programmatique qui pourra réellement changer leur vie. Après, moi, vous savez, rien n'est joué, sauf le soir du premier tour, quand on aura les résultats. Moi, j'attends juste le résultat, et je suis très conscient de la puissance et la force populaire qui peut réellement faire changer cette élection. Et donc j'appelle toutes les personnes des classes populaires, mais aussi des classes moyennes qui vivent en fait les mêmes souffrances que celles des classes populaires, à aller dans les urnes pour aujourd'hui faire exister un programme qui va trouver des solutions pour leur quotidien et leur vie. Nous, on parle de répondre aux des besoins fondamentaux qui fera en sorte d'apaiser le peuple. Et donc là, j'ai jamais entendu le maire de Marseille le faire. Et on parle par exemple de droit fondamental au logement qui n'est pas respecté dans ce pays. Et donc nous appelons à justement réquisitionner les logements vides, ce qui n'a jamais été fait par le maire de Marseille, ce qu'il ne veut pas faire d'ailleurs et qui n'est pas applicable dans son programme. Et donc il préfère détourner le regard de milliers de personnes qui ont connu la rue l'année dernière sur Marseille et cette année. Et donc c'est pour cela que ces urgences-là, la possibilité de répondre au droit au logement, au droit de se soigner, le droit de manger convenablement, de se nourrir et le droit d'avoir accès à l'éducation et à la culture sont pour nous des droits fondamentaux auxquels nous souhaitons répondre pour pouvoir apaiser une population qui est très tendue ici à Marseille. Payan n'aura pas le choix que de discuter avec la France insoumise si nous sommes derrière. De toute manière, quoi qu'il en soit, il n'y a aucun monde où des listes se retirent. Il y a des listes qui fusionnent, mais pas qui se retirent. On a le droit d'exister dans le visage politique parce qu'on représente quelque chose. Donc je suis dans l'attente des résultats et je souhaite que nous arrivions en tête lors de ce premier tour pour permettre justement l'union des Marseillaises et des Marseillais pour un beau programme de gauche qui amènera une belle victoire.
Sébastien Delogu, tête de liste des Insoumis pour la mairie de Marseille. Et vous retrouvez la liste complète de tous les candidats en lice à Marseille ou dans votre ville sur franceinfo.fr grâce à notre moteur de recherche. Dimanche soir, justement, sur France Info, grande soirée électorale pour ce premier tour des municipales. Et parmi les villes que nous surveillerons de très près, Le Havre, où le maire sortant, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, est menacé, donné perdant pour la première fois dans un sondage. Il joue gros, hein, d'ailleurs, Paul Barcelone. Défaite interdite pour Édouard Philippe s'il veut pouvoir se présenter à la présidentielle.
Alors, il y a bien quelques panneaux votés doudou dans les travées du théâtre Le Normandie.
Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Ça tombe bien.
Mais Édouard Philippe refuse d'endosser le costume de candidat à la présidentielle.
Comment est-ce qu'on rappelle à tout le monde qu'il n'est pas normal de laisser son chien déféqué dans l'espace public? Non mais pardon, parler de choses triviales, mais c'est la vie de tous les jours.
S'il s'accroche à son écharpe de maire, l'ancien Premier ministre distribue les coups à ses adversaires communistes.
De ce point de vue-là, le PC, c'est le passé.
Ou ici, au Rassemblement National.
Dire qu'on va réussir à mettre en œuvre un projet qui permettrait de relier Paris au Havre en une heure, parce qu'on connaît bien Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça n'est pas certain. Non mais, c'est pas vrai.
Plus tard, dans sa loge, Édouard Philippe reconnaît avoir accéléré. Réunion d'appartement, tractage pour faire mentir le sondage et sortir en tête au premier tour.
Il faut vraiment pas connaître Le Havre pour penser que les élections ici sont une formalité. Si je n'arrivais pas à convaincre les Havrais, il faudrait que j'en tire les conséquences. Mais tout le monde en tirera les conséquences. Sur ce, je vous remercie.
Suffisant pour que l'un de ses concurrents, Jean-Paul Lecoq, y décèle un peu de fébrilité.
Je sens que les choses ont changé depuis qu'il y a eu un sondage. Ça a donné aux gens l'idée que peut-être on peut gagner. Ça veut dire qu'autour d'eux, ils doivent aussi discuter.
Illustration justement à l'arrêt de tramway près de la gare.
Franchement, moi je vote pour vous en tout cas. Ah ouais, il faut du changement.
Donc,
le tour de vous, ça, les gens, ils ont envie de voter.
Ils ont envie, oui.
Parce que c'est eux qui font la différence.
Moi, déjà, je prends mes enfants. J'ai trois grands, ils votent avec moi. Et la même chose que moi, donc on est bien.
Merci à vous. Bon, puis à dimanche, à travers les urnes. Je compte sur vous.
Ce duel à travers les urnes, Franck Keller le regarde à distance.
Ils sont amis, ils s'entendent, il y a une grande mascarade, il y a un jeu de rôle entre eux. Non, stop, les Havrais n'ont ras le bol, il faut véritablement des gens qui s'occupent de la ville.
Pourtant, la tête de liste du Rassemblement National et de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, n'est pas au Havre pour la dernière ligne droite de campagne. Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, il vit à Paris, mais Franck Keller promet d'être moins absent qu'Édouard Philippe.
Moi, j'habite effectivement au Havre tous les week-ends, je suis à Paris toute la semaine pour des raisons d'emploi. Bien entendu, moi, demain, élu maire du Havre, je serai 7 jours sur 7 au Havre. On a un cadre de vie qui s'est fortement dégradé par manque d'entretien, par manque d'implication de l'équipe municipale actuelle. Donc on a une ville qui est sale, sauf autour de l'hôtel de ville, comme par hasard. Être président de la République, c'est son seul objectif. Donc dès le lendemain de l'élection, il sera parti pour mener une campagne électorale pendant une année. Donc pendant un an, on ne le verra pas. Donc la question que pose les Havrais, c'est qui sera le vrai maire du Havre si Édouard Philippe était élu? Parce qu'on ne le sait pas, en tout cas, ça ne sera pas lui.
Des attaques qu'Édouard Philippe raille avec, jure-t-il, le calme des vieilles troupes, sans manquer de rappeler que ces tripes ont d'abord un goût d'eau salée.
Merci beaucoup Paul Barcelone pour ce reportage au Havre, où les autres candidats sont Charlotte Boulogne pour la France Insoumise, Magali Chauchois pour Lutte Ouvrière, et puis deux listes citoyennes, La Ville est à vous et Le Havre en débat. Et on le rappelle, vous retrouvez la liste complète de tous les candidats, de toutes les listes en lice dans votre commune grâce au moteur de recherche sur franceinfo.fr. Ils nous utilisent comme des boucliers humains. Dans un instant, vous entendrez le témoignage édifiant d'une Iranienne qui a fui les bombardements à Téhéran et qui critique l'attitude du régime. Rendez-vous après un nouveau tour complet de l'actu.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Diane Ferchit.
Bonjour à tous.
À la une, à 5h21, Israël qui mène de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth.
Elles ont fait 7 morts tôt ce matin. Emmanuel Macron appelle Israël à renoncer à une offensive terrestre au Liban. Il demande également au Hezbollah de mettre fin à ses attaques sur Israël. L'Iran affirme de son côté être prêt pour une guerre longue, une guerre d'usure, et dit vouloir frapper également les ports et les centres économiques des États du Golfe, notamment les géants américains de la tech. Cette nuit, un drone iranien a touché un immeuble de Dubaï sans faire de blessés. Immeuble qui abritait des militaires américains. Donald Trump promet, lui, qu'une grande sécurité régnera bientôt dans le détroit d'Ormuz. Selon le président américain, 28 navires iraniens poseurs de mines ont été frappés. En France, 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, requis à l'encontre d'un infirmier jugé pour une escroquerie à l'assurance maladie. Préjudice estimé 1 800 000 euros. Selon le parquet de Châlons-en-Champagne, il lui est reproché d'avoir facturé des actes qui n'avaient pas été réalisés. Nouvelle chance de médaille pour la France aux Jeux paralympiques aujourd'hui, avec l'épreuve du slalom géant en lice. Aurélie Richard, qui a déjà décroché l'argent à 3 reprises depuis le début de la compétition. La France est ce matin 6e au tableau des médailles.
France Info. Diane Ferchit en parlait à l'instant. De nouvelles frappes sont relevées partout, à nouveau au Proche et au Moyen-Orient, au Liban. Ces frappes israéliennes contre le Hezbollah pro-iranien, Téhéran qui a aussi de nouveau visé les pays voisins du Golfe ces dernières heures, et puis les Iraniens qui sont eux aussi sous les bombes d'Israël et des États-Unis depuis près de 2 semaines maintenant. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
Directrice de la rédaction internationale de Radio France, vous avez pu joindre Anne, une Iranienne de 45 ans qui vous a raconté son quotidien.
Oui, appelons-la Neda, traductrice. Elle est réfugiée à quelques dizaines de kilomètres de Téhéran, mais continue à entendre les bombardements. Neda a fait un plein de courses hier pour ne plus avoir à sortir et éviter de prendre des risques, m'a-t-elle raconté. Mais vous n'entendrez pas sa voix, trop dangereux. Privée d'internet, cloîtrée dans son nouveau domicile, comme des millions d'Iraniens, Neda ne peut plus travailler depuis plus de 2 mois. Sans revenu, faire ses courses devient de plus en plus compliqué. Mais pas de pénurie, les rayons sont pleins car les gens n'ont pas d'argent pour se ravitailler, explique-t-elle. Fille d'opposante, Neda est en colère comme jamais. À la télévision d'État, ils nous disent que tout va bien. Ils nous envoient des SMS pour nous dire de sortir, de vivre normalement. Alors que ça bombarde partout, ils nous utilisent comme des boucliers humains. Sans l'avoir vue elle-même, Neda raconte que tout le monde à Téhéran parle de gardiens de la révolution qui s'abriteraient dans des écoles, des stades ou des immeubles résidentiels. Ils font exactement comme le Hamas à Gaza. Ce n'est pas un gouvernement, ce sont des terroristes, s'emporte-t-elle.
Et Anne, ce que craint Neda, c'est une guerre pour rien. Pire, une guerre qui renforcerait les gardiens de la révolution.
Oui, comme beaucoup d'Iraniens, après le massacre du mois de janvier, Neda souhaitait une intervention américaine. Aujourd'hui, elle n'a pas changé d'avis, mais elle doute. Quand des bombes tombent, on a peur. Quand des bombes ne tombent plus, on a peur aussi, car au final, le régime est toujours là. Et je crains qu'on finisse par se retrouver avec des tueurs d'une brutalité sans nom qui vont finir par se venger sur nous, quand la guerre prendra fin, explique-t-elle. Alors Neda, on appelle aux États-Unis et même à Israël, finissez le travail. Car Neda voit passer sur les réseaux sociaux, quand l'un de ses trois VPN fonctionne, des images de Basidji armés. Il ne rêve que d'une chose, d'un nouveau massacre. Alors oui, nous avons plus peur du régime que de la guerre, conclut-elle.
Merci Anne Souhaitemont, 5h24 et c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec une figure du cinéma français ce matin.
Bonjour Gilles Lelouch.
Bonjour.
C'est à Fontainebleau, hein, au collège, que votre vocation est née grâce à une professeure de français qui vous a invité à monter sur scène pour jouer le personnage principal de la pièce de théâtre Les Fourberies de Scapin de Molière. Vous avez malgré tout mis du temps à vous faire confiance et à franchir le pas. Et puis un jour, tout a basculé avec la comédie Mes Amis de Michel Hazanavicius qui vous a donné votre chance en plus de vous permettre de rencontrer celui qui va vous faire totalement confiance, qui est Guillaume Canet. C'est comme ça que vous allez être repéré dans le film Mon Idole en 2002, puis révélé avec Ma Vie en l'air de Rémi Besançon. Et aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film Le Crime du Troisième Étage, côté de Laetitia Casta et Guillaume Gallienne. C'est l'histoire d'un meurtre, donc d'une enquête, d'une affaire devenue policière et d'une rencontre sur fond de déclaration d'amour au cinéma. C'est un rôle qui oblige à lâcher prise pour maintenir ce regard qui est très important de cet homme qui est un peu bourru et qui est complètement empoté dans ses émotions et ses capacités à assumer ses sentiments, même vis-à-vis de sa femme.
C'est vrai que cet homme, c'est l'artiste qu'il n'est pas exactement, c'est-à-dire un type qui se voit beaucoup plus loin, beaucoup plus beau, beaucoup plus talentueux qu'il ne l'est. On voit bien que c'est un type qui est en légère presque dépression, qui reste dans son canapé toute la journée, qui sort plus, qui n'a plus le goût de l'aventure alors que sa femme a encore ce goût de l'aventure. C'est elle qui va le tirer, il va l'amener comme ça, va le faire sortir. Et finalement, il y a quelque chose dans ce que vous dites, effectivement, qui est juste dans le côté bougon, ours. C'est quand même un homme qui n'attendait que ça, lui aussi, indirectement et secrètement, parce que il dit non a priori, mais il dit oui toujours à l'arrivée, à la fin. Donc en fait, il y a quand même quelque chose d'un homme qui sommeillait et qui se réveille grâce à sa femme. Ouais.
Quand on vous regarde à l'image, Gilles, on voit ce regard que vous portez sur Laetitia Casta, ce regard de bienveillance, on fait attention à l'autre.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est un peu cassé ses lentes habitudes et cette espèce de routine dans laquelle on se retrouve trop rapidement. Et en fait, le couple, c'est une aventure absolue. Il faut savoir l'alimenter, la préserver, la caresser, c'est une chance. Donc il faut savoir la vivre à la hauteur de ce qu'elle mérite.
Ce film, c'est un hommage au cinéma et aux plumes, aux grands auteurs, avec de belles références à Agatha Christie, il y a du Shakespeare, à Victor Hugo, à Hitchcock, l'incontournable Fenêtre sur cour. Le cinéma a toujours été une passion, j'ai l'impression, pour vous.
Oui, et en plus, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en faisant du théâtre. J'étais au cours Florent, donc c'était une petite expérience théâtrale, mais dans laquelle, dans ma promotion, il y avait Guillaume Gallienne. Moi, je voyais déjà un acteur confirmé alors qu'il avait 22 ans, quoi. C'était comme ça, alors que moi, j'étais immature au possible. Je voyais quelqu'un d'une grande aisance et d'une grande connaissance de ses outils. Pour revenir au cinéma, oui, ça a pris une place énorme et fondamentale dans ma vie très rapidement. Quand j'étais adolescent, je me souviens que j'allais 3-4 fois au cinéma par semaine, sans compter les cassettes qu'on louait dans les vidéoclubs. J'ai toujours une soif et un désir de voir, quel que soit le genre, du reste, j'allais me balader un peu dans tous les genres de cinéma, mais comme une soustraction au réel, oui, comme une volonté de prolonger la fiction.
Finalement, il n'y a pas vraiment de compromis dans vos choix. De plus en plus, vous avez affiné sur ce qui vous correspondait, au point sans doute de refuser des films qui ne vous correspondaient pas. Et c'est marrant parce que ce virage-là dans le dramatique a bluffé tout le monde et j'ai l'impression qu'il a commencé aussi à vous bluffer vous-même et à vous permettre de vous rendre compte à quel point vous étiez capable de tout jouer.
J'aurais payé pour faire du cinéma, moi, quand j'avais 20 ans. Donc le fait d'avoir la chance inouïe d'avoir le choix, c'est une chance qu'il faut respecter. Moi, je fais le métier que je rêvais de faire au-delà même de mes plus grands espoirs. Il faut être bien conscient de l'opportunité qu'on a, d'essayer d'en profiter au maximum. Et c'est vrai, probablement que vous avez raison. Je cherche le risque, je cherche le trac, je cherche l'endroit de perdition et probablement même le risque absolu de tomber et de ne pas y arriver.
Il y a un message qui est très fort. Votre épouse, donc incarnée par Laetitia Casta, adore les petits messages dans les cookies. Là.
Les fortune cookies. Ouais.
Il y a toujours un message qui revient quand son mari en ouvre un, c'est le mot vérité. Et on se rend compte que pour faire avancer les choses dans un couple, il faut se confronter à la vérité, donc ouais. L'accepter et savoir la dire, ou en tout cas savoir se la formuler. C'est la clé, ça aussi.
Oui, je pense qu'en fait, mais après, il est déjà très compliqué de s'avouer la vérité. Ensuite, il est très compliqué d'avouer à l'autre sa vérité sur son couple, à l'endroit de son couple, à l'endroit de sa faiblesse, à l'endroit du regard qu'on porte sur l'autre. Après, est-ce que toute vérité est bonne à dire dans le couple ? Pas forcément non plus.
On comprend d'ailleurs à quel point, effectivement, c'est important de reséduire l'autre. Donc, créer des aventures, c'est ça ? Qui maintient un couple en vie, proposer quelque chose d'autre.
Oui, je crois. Oui, je crois que c'est un talent qu'il faut absolument avoir. C'est-à-dire que On a tendance à avoir à développer beaucoup de talents dans sa vie professionnelle ou dans sa vie presque même amicale. Et en fait, le couple est une résonance forte et évidente sur le non-effort qu'on peut faire, en fait. Alors que moi, je crois qu'au contraire, c'est la plus grande des résolutions qu'il faut avoir, c'est de vivre. Pour être sexy, il faut être vivant, quoi. Il faut être enthousiaste, il faut être aventurier, puis il faut avoir du charme. Et il faut juste pas trop éteindre la petite flamme, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, Gilles. Merci à vous. D'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Le crime du troisième étage de Rémy Besançon vient de sortir au cinéma. Courez le voir, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci, Élodie Suico.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peña, la baisse des températures se poursuit.
Mais oui, elle se poursuit surtout ce matin. Il fait froid, nous avons 2 à Nancy, 0 du côté de Reims, petite gelée, 4 du côté de Tours, 5 à Caen, 6 à Lyon, comme à Paris, à Rennes, à Nantes ou encore à Lille, à Bordeaux également, 6 degrés. Nous avons ces températures en baisse car le ciel est souvent dégagé. On a pas mal de grisailles, de brouillards qui se sont levés, mais ça c'est toute l'humidité de ces derniers jours qui s'échappe. Les nuages reviendront assez vite par les côtes de la Manche, mais on va profiter quand même du soleil du Mistral dans le sud, en Méditerranée ça s'arrange. Bon, on profite quand même de ce soleil, et puis sur toute la façade est, vers les Pyrénées, c'est là où le soleil sera vraiment tout seul dans le ciel.
Merci beaucoup Christine Peña, et merci à tous d'être avec nous en ce 12 mars, il est 5h30.
William Guécosta.
À la une d'un nouveau journal, 7 morts dans le sud de Beyrouth selon les autorités libanaises. Israël continue de mener des frappes dans le pays contre le Hezbollah pro-Iran. Des explosions aussi ont été entendues ces dernières heures en Iran où l'État hébreu et les États-Unis là aussi mènent des bombardements. Et puis des détonations entendues dans les autres pays du Golfe. Bahreïn appelle par exemple ses habitants à rester confinés après une attaque attribuée à Téhéran contre des réservoirs d'hydrocarbures. Cette guerre qui continue, elle continue à faire grimper les prix du pétrole. Après une accalmie, le baril de Brent a de nouveau dépassé la barre symbolique des 100 dollars en raison de l'inquiétude autour du détroit d'Ormuz, là où énormément de pétroliers circulent normalement. Inquiétude aussi pour les entreprises en France qui fabriquent des médicaments, car beaucoup de matières premières passent par le détroit d'Ormuz et beaucoup de produits sont exportés vers le Moyen-Orient. Ce conflit, il vient donc frapper de plein fouet la filière biochimie européenne qui est déjà confrontée à la concurrence chinoise et indienne. L'entreprise M2I, dont le siège social se situe en région parisienne, y est confrontée de pleine face. Morgane Guillaumard, pardon.
Yoann Fournil est directeur de la communication de M2I, cette entreprise qui fabrique des principes actifs pour les médicaments avec des molécules importées du Moyen-Orient.
On a des allongements des durées de livraison de 10 à 20 jours.
Parce que les porte-conteneurs passent par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique.
La deuxième chose, c'est l'augmentation des transports. L'augmentation se chiffre à peu près à 1 000 à 1 500 euros par conteneur de coûts supplémentaires.
Avec des tarifs très volatiles et une augmentation aussi du prix des matières premières.
Par exemple, un intermédiaire que nous pouvions acheter à 200 euros le kilo nous est désormais proposé à plus de 220 et les perspectives d'achat pour le mois prochain se situent entre 250 et 300 euros le kilo.
Un coût très important puisque l'entreprise en achète 2 à 5 tonnes par an. Et pour d'autres industriels, ce qui est freiné, c'est plutôt l'exportation vers les pays du Golfe.
Alors Céline Cruson-Rubio, je représente aussi bien les producteurs de principes actifs et d'excipients que les fabricants de médicaments en France.
Des crèmes, des médicaments qui ne peuvent pas être acheminés dans la région.
Certains de nos adhérents, ils ont dû reprendre leur stock qui était en douane et qui devait être envoyé dans les pays du Golfe.
Et en France, pour le moment, les stocks de médicaments sont suffisants. Il ne devrait donc pas y avoir de pénurie ou d'augmentation des prix. En tout cas, pas dans les prochaines semaines.
Reportage signé Morgane Guillaumard pour France Info. C'est la date fatidique aujourd'hui pour Parcoursup, les futurs bacheliers où les étudiants en réorientation n'ont plus que la journée d'aujourd'hui pour finaliser leurs vœux pour l'année prochaine dans le supérieur. Il reste tout de même encore 3 semaines pour finaliser le dossier de candidature. Le prix moyen pour s'offrir une voiture électrique a baissé en Europe en 2025 et ce pour la première fois depuis 6 ans. 1 800 euros de moins à débourser pour s'en offrir une selon l'ONG Transport et environnement, mais le prix moyen reste tout de même très élevé, 42 700 euros. Et puis Aurélie Richard va-t-elle décrocher une nouvelle médaille? La française est la seule tricolore encore en lice, pardon, aujourd'hui aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina en paraski alpin pour le slalom géant. En paraski de fond, hier, Karl Tabouret a remporté la troisième médaille d'or française. Merci d'être avec nous sur France Info. Il est 5h34.
France Info. 5h-6h, William Gecosta.
Revenons à ce baril de pétrole qui coûte de nouveau plus cher après une accalmie sur les marchés financiers. Le baril de Brent, un indice de référence, est repassé au-dessus de la barre des 100 dollars et ce malgré les annonces des membres de l'Agence internationale de l'énergie, dont la France, qui vont débloquer une partie de leur stock stratégique de pétrole, libéré jusqu'à 400 millions de barils. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'institution. Et c'est l'équivalent du transit de pétrole habituel dans le détroit d'Ormuz pendant une vingtaine de jours. Un détroit qui est quasiment fermé par les Iraniens. La France va débloquer, elle, jusqu'à 14,5 millions de ces barils. Mais tout cela, est-ce que ça peut jouer sur le prix, sur les marchés et, au bout du compte, les prix à la pompe? Voilà l'analyse de Jean-Marc Rivera. Il est directeur général délégué de l'Organisation des transporteurs routiers européens.
Les distributeurs annonçaient possiblement une baisse assez rapide des prix à la pompe. Si cet effet était réel, nous dirons bien évidemment tant mieux, mais d'autres experts considèrent que cette mesure est plutôt une mesure par choc qui vise à éviter que les prix continuent de grimper. Nous verrons très clairement quel va être l'effet, mais nous espérons, nous, qu'il sera rapidement en baisse pour les prix.
Quelles conséquences pour les transporteurs routiers, évidemment grands consommateurs de pétrole?
Pour un transporteur, on a en moyenne le prix du carburant, c'est 25%, un quart du prix de revient, du coût de revient d'un transport. Donc c'est un des postes les plus importants. Quand vous prenez 30 centimes par litre sur des véhicules qui, sur de la longue distance, peuvent consommer 1000 à 1500 litres de carburant la semaine, vous imaginez immédiatement les surcoûts qu'il nous faut tenter de répercuter à nos clients. Sauf que nous payons le carburant quasiment d'une façon instantanée et les retours des répercussions, en tout cas des prix, nous les avons peut-être deux mois et demi après, quand les factures sont émises, quand les factures sont payées, et dans une période où les retards de paiement ne sont pas exceptionnels. Donc il y a des vraies difficultés de trésorerie pour les entreprises, et nous sommes principalement et massivement composés de petites et moyennes structures. Le transport en France, c'est 80% des TPE-PME, qui sont déjà fragilisées par deux années d'un marché plutôt très morose, avec des baisses d'activité importantes. C'est vraiment une sale période. On n'avait pas besoin de cette situation des carburants pour venir fragiliser davantage les entreprises.
Jean-Marc Rivera, est-ce que selon vous, jouer sur les marchés, ce que font les États en ce moment en envoyant des signaux, en prenant sur les stocks, sur les réserves stratégiques pour libérer évidemment du pétrole et envoyer des signaux au marché pour faire baisser le prix du baril, est-ce que c'est suffisant selon vous? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être prendre d'autres mesures comme les blocages des prix si la situation venait à perdurer?
Si la mesure prise a une efficacité de baisse de prix rapide, c'est aussi rapide que les prix ont monté. Voilà, c'est très simple. Et quand on voit la vitesse à laquelle les prix ont augmenté...
Oui, en deux jours, quoi.
on souhaite un effet, effectivement, aussi rapide dans l'autre sens. À défaut de quoi, il va falloir que des mesures, effectivement, rapides soient prises, ne serait-ce que déjà... Je vais vous prendre un exemple très simple. On a ce qu'on appelle, nous, les encours autorisés. C'est-à-dire, on a une somme d'argent sur laquelle on peut, avec les pétroliers, consommer et acheter du carburant. Et quand ces encours sont atteints, eh bien, on ne peut plus acheter de carburant ou alors il faut immédiatement le repayer. Mais nous demandons déjà que ces encours soient déplafonnés. Si on ne peut pas acheter nos carburants, on ne peut pas faire circuler nos véhicules et on ne peut pas effectuer les services pour lesquels nous sommes attendus. Ça, c'est des éléments très pratiques, de terrain qui nous permettent de continuer. Maintenant, si la situation perdure, il est évident, et nous avons déjà commencé à le faire savoir à Monsieur Lescure, il faudra à un moment donné envisager des mesures d'aide directes aux entreprises. Nous l'avions connu en 2022 à travers à la fois des aides de réduction à la pompe, mais également des mesures spécifiques. Ça avait été des aides aux véhicules pour les entreprises du transport routier.
Mais vous le savez, hein, les finances de l'État ne sont pas reluisantes.
On a tout à fait conscience de la situation. On a eu tout un débat autour du projet de loi de finances. Mais là, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la sauvegarde de l'emploi. C'est des entreprises qui sont peut-être amenées à disparaître. Je pense que le coût de la mortalité d'entreprises, de personnes qui partent au chômage, doit aussi être pris en compte.
C'est ce que vous direz. Je crois que la profession doit être reçue en début de semaine prochaine à Bercy, non ?
C'est très clairement ce que nous allons rappeler, mais ce que nous rappelons également depuis longtemps, c'est que notre secteur d'activité est un secteur d'activité stratégique. Le transport routier aujourd'hui, il sert à alimenter les magasins, il sert à alimenter les industries. Puis je vais vous prendre un exemple très simple. Sans poids lourd aujourd'hui, vous n'auriez pas de carburant dans les stations-service. Donc nous sommes absolument vitaux et nécessaires à l'économie du pays et on ne peut pas traiter le transport routier sans un intérêt très fort.
Le directeur délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens, Jean-Marc Rivera, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. À nouveau cette nuit, un porte-conteneur a été touché par un projectile inconnu au large des Émirats Arabes Unis. Tension toujours extrême dans le pays. À Dubaï aussi, où une tour a été ciblée par un drone iranien, une tour qui abritait des militaires américains selon la télévision d'État à Téhéran, le pays du Golfe où se trouve aussi une communauté iranienne. Comment vit-elle cette guerre alors que les Émirats, leur pays d'adoption, est frappé par leur pays d'origine ? Vous êtes allé à la rencontre de cette communauté, Isabelle Labéry.
Un quartier populaire de Dubaï. Majid propose des grillades d'agneau et du riz au safran. La guerre n'est pas au menu.
On ne parle pas de ça. Les gens viennent, ils mangent et ils repartent. Ici, on ne fait pas de politique.
L'Iranien reste très attaché à son pays d'origine.
Pourquoi est-ce qu'il frappe l'Iran ? L'Iran n'attaque personne. Mais les États-Unis ne sont pas Dieu. Ils sont peut-être une superpuissance, mais au-dessus d'eux, il y a Dieu. Et si vous fermez un chemin, Dieu en ouvrira 10 autres.
My name is Benyamin.
Pour Benyamin, qui travaille dans une société d'import, le blocage du détroit d'Ormuz est au contraire une vraie source d'inquiétude, comme les images en provenance de Téhéran.
Je me sens très mal. Je me sens très mal parce que j'ai mes cousins là-bas, mes souvenirs. Ils nous disent que tout le monde est stressé. Ah, c'est tombé à côté de chez moi, on vient d'être touché. J'ai peur. C'est ça nos conversations. On parle de missiles.
Même mal-être chez Iman.
N'importe quelle vidéo qui montre de la fumée, des incendies et des rues détruites me brise le cœur. Mais mon pays, avec sa politique, a décidé d'entrer dans cette guerre. Le gouvernement émirati, lui, il se défend, il fait tout pour ne pas provoquer, pour ne pas être entraîné malgré lui dans cette guerre et pour éviter le pire.
Sourouj Elali, acteur et agent immobilier, s'est installé à Dubaï il y a à peine un an. Il ne veut pas prendre parti. Peu importe qui a tort ou qui a raison, qui attaque et qui se défend, dit-il, on n'obtient pas la démocratie par les bombes. Le trentenaire espère que les frappes cesseront le plus vite possible des deux côtés.
Reportage à Dubaï, signé Isabelle Labéry et Gilles Gallinaro. Cette guerre, elle touche tout le Moyen-Orient, l'Iran, les pays du Golfe, on l'entendait, mais aussi le Proche-Orient, au Liban. 7 personnes ont été tuées ces dernières heures dans des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth, la capitale menée contre le Hezbollah pro-Iran. Plus de 800 000 personnes ont été déplacées au total dans le pays par ce nouveau conflit. Beaucoup n'ont plus de toit et doivent se nourrir dans des cantines géantes, comme ici à Beyrouth, Étienne Monin.
On est là sur un terrain vague. À droite, on voit un grand chapiteau blanc. Au fond, on aperçoit des cuisines avec des gens qui sont en train de préparer des repas.
Poulet molorillé, d'après ce que j'ai vu.
voilà, un peu de taboulé aussi, j'ai vu. Classique, on va dire.
Ce qu'on a en face de nous, en fait, c'est le dynamisme de la société libanaise.
You are able to react.
Ce garçon s'appelle Paul Issa, il est responsable de l'association Nourriture pour tous, qui pilote cette cantine solidaire.
In less than 24 hours,
on a pu s'organiser en moins de 24 heures. On a construit cette cuisine ici qui n'existait pas la veille des frappes. On a monté la cuisine en 12 heures pendant la nuit. Et dans la foulée, on a commencé à produire 2000 repas par jour.
L'association a 3 voitures. Elle apporte les repas dans des écoles qui servent d'abri aux réfugiés. Elle a quelques salariés, mais elle s'appuie beaucoup sur les bénévoles comme Frédéric.
Pas rester juste chez soi, écouter les bombes tomber. Hein.
Française, amoureuse du Liban, son mari travaille ici.
L'année dernière, je participais déjà pendant la guerre, donc je me suis dit que voilà, ça recommençait. Et je suis venue ce matin, et effectivement, voilà, c'est...
Cette cantine solidaire est soutenue par les dons et par une association américaine. Elle a été lancée au départ en 2019 avec l'explosion du port, puis elle a été réactivée l'an passé et enfin cette année avec un peu plus d'organisation autour d'elle dans la société libanaise.
C'est mieux que l'an passé pour être très honnête. Il y a des structures qui ont été construites et il y a plus d'organisation que lors de la dernière guerre, je dois l'admettre. Mais si c'était suffisant, on ne serait pas là à cuisiner pour les gens des refuges. On n'aurait pas à répondre à cette demande.
Globalement, les gens ici nous disent qu'il y a de l'aide qui est apportée pour le Liban, mais tout le monde constate aussi que la solidarité internationale, cette année, est bien moins présente pour le pays.
France Info reportage a signé Étienne Monin et Martin Troadec à Beyrouth. Dans un instant, l'essentiel de l'info en une minute. Et puis nous serons dans les studios d'une radio dirigée par un Français qui émet très loin jusqu'en Iran pour contourner la censure et informer les Iraniens. Ce sera après donc l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
Et c'est avec vous Diane Ferchit à 6h moins le quart. Et à la une donc, l'Iran proche de la défaite selon Donald Trump.
Le président américain affirme que les États-Unis vont, selon ses mots, finir le boulot. Et il confirme que Washington va puiser dans sa réserve stratégique de pétrole 172 millions de barils qui vont être débloqués à partir de la semaine prochaine. L'Iran, de son côté, se dit prêt à une guerre d'usure qui détruirait l'économie mondiale. Des drones iraniens ont touché notamment Dubaï cette nuit, frappant sans faire de blessés un immeuble qui abritait des soldats américains. 2 autres drones sont tombés près de l'aéroport de la ville, blessant la 4 personnes. Nouvelle attaque aussi venue d'Israël sur le Liban. 7 personnes tuées dans la banlieue sud de Beyrouth ce matin. Emmanuel Macron demande à Israël de renoncer à une offensive terrestre au Liban. 1 million de véhicules en France ont été immatriculés de façon frauduleuse. La Cour des comptes révèle une fraude massive à la carte grise, fraude rendue possible par la dématérialisation des démarches. La Cour des comptes qui appelle à une reprise en main urgente de la part de l'État. Le football et le réveil du PSG hier soir face à Chelsea. 5-2 pour les Parisiens au Parc des Princes. Dans ce 8e de finale aller de la compétition, le retour se jouera mardi.
France Info.
Dans le choix de France Info ce matin, une radio RFPI, Radio for Peace International. C'est une radio associative, elle est dirigée par un Français et elle émet jusqu'en Iran, depuis l'étranger, via les ondes courtes qui, contrairement à ce que laisse penser leur nom, permettent d'émettre très loin et donc, Thomas Vinclair, d'éviter la censure.
Depuis 10 jours, ce jingle résonne dans certains postes de radio de Téhéran tous les matins à 8h.
Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
C'est l'identification de la station.
Sylvain Clament est le président de RFPI, Radio for Peace International.
Des fois, c'est un peu brouillé, donc il faut vraiment savoir exactement que c'est la bonne station que tu écoutes, quoi.
Pacifiste, altermondialiste, cette radio libre américaine était tombée dans l'oubli au début des années 2000. Sylvain Clament devient président en 2019 et RFPI fait parler d'elle 3 ans plus tard avec la guerre en Ukraine. Il diffuse avec des opposants des émissions en russe pour contrer la désinformation de Moscou. Aujourd'hui, pour le peuple iranien, il reprend du service depuis sa maison située en Gironde, en pleine campagne.
Donc là, on est chez moi où je me suis créé un studio plutôt professionnel, quoi.
Derrière sa table de mixage, Sylvain assemble les éléments sonores envoyés par ses sources iraniennes. Pour écouter ses émissions, il suffit d'avoir une radio avec des piles.
Tu peux écouter la radio pendant des heures et des heures et des heures, quoi.
Alors ces 30 minutes d'émission débutent toujours par un point sur les dernières actualités.
Khamenei est mort et l'Iran est entré dans une nouvelle phase.
Ce matin, les gardiens de la révolution indiquent que 30 personnes sont mortes lors du bombardement d'une base aérienne à Kerman.
Il y a aussi des poèmes et des textes plus politiques.
Oui à une république fondée sur la souveraineté du peuple. Oui à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Oui à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et enfin, des messages d'Iraniens coupés du monde sont diffusés, des textes lus à l'antenne.
Message de Sohrab à Arashaya. Dites bonjour à vos amis et communiquez avec nous à tout prix. Fin du message.
Pour échapper aux coupures d'internet du régime iranien, aux coupures d'électricité après des bombardements, RFPI utilise les ondes courtes, les seules capables de rayonner sur des milliers de kilomètres. De quoi diffuser en Iran sans y mettre un pied. Pour ce projet, RFPI s'appuie sur Daniel et ses immenses antennes situées en Ouzbékistan à 2000 kilomètres de Téhéran.
Je crois en la diffusion libre de l'information. C'est très important.
Ce directeur d'un centre de transmission est pleinement mobilisé dans ce projet.
Les pays peuvent diffuser à travers les frontières, nous n'enfreignons aucune loi. Nous ciblons les endroits où il y a le plus de monde dans le centre et le nord de l'Iran.
Sylvain Clament ne parle pas le farsi, la langue la plus courante en Iran. Alors pour créer son rendez-vous quotidien d'actualité, il fait appel à des Iraniens en exil, des journalistes, des chercheurs, des membres de la diaspora. Certains sont des monarchistes, d'autres républicains. Beaucoup sont proches du Conseil national de la résistance iranienne, mouvement qui fédère une partie de l'opposition.
Hello, my name is Moussa.
Moussa est l'un de ces volontaires durant la révolution islamique. Son oncle a été tué, son père emprisonné. Depuis, lui et sa famille ont fui, trouvé refuge en Europe. Aujourd'hui, avec cette guerre, il veut apporter son aide aux Iraniens grâce à la radio.
Le régime iranien tente d'imposer la censure.
Internet
est coupé. Tous les modes de communication sont coupés. Nous devons aider notre peuple et amplifier sa voix.
Tous les jours, il reçoit des messages de la part d'auditeurs.
The message of hope, the message of liberty.
Un message d'espoir, un message de paix, c'est ce qu'ils recherchent. Je pense à ces familles, à ces personnes en Iran qui peuvent entendre ces messages d'espoir. Et ça me motive à continuer ici comme volontaire.
Le modèle de RFPI repose uniquement sur les dons. Alors le président de cette radio, Sylvain Clament, est désormais à la recherche de nouveaux financements.
C'est presque une mission humanitaire en fait. C'est de la radio humanitaire. Il ne faut pas minimiser l'importance de la voix. La voix réconforte, c'est-à-dire qu'on reçoit un signal de l'extérieur, donc c'est réconfortant et ça redonne de l'énergie, quoi, de savoir qu'on n'est pas abandonné.
Chaque jour, pour diffuser en Iran, RFPI débourse 45 euros pour les 30 minutes d'émission. You're listening to Radio for Peace International.
Le choix de France Info, signé ce matin Thomas Vinclair, à réécouter sur l'application Radio France. Pour la première fois, le déroulé exact de la catastrophe de Crans Montana se précise plus de deux mois après l'incendie dans un bar suisse qui a coûté la vie à 41 morts. L'analyse de la vidéosurveillance permet de mieux comprendre ce qu'il s'est passé ce soir du réveillon. Bonjour Aurélien Tirard.
Bonjour.
Service police-justice de France Info, vous avez pu consulter le rapport des enquêteurs suisses et ce qu'il démontre, c'est déjà l'extrême rapidité de l'incendie.
Oui, 1 minute et 32 secondes, c'est le temps entre la toute première étincelle et l'embrasement généralisé dans le Constellation. Les images montrent d'abord la fête du Nouvel An, le personnel du bar qui prépare des bouteilles avec des bougies étincelantes pour les amener à un groupe de clients. Il est alors 1h26 minutes et 58 secondes. Selon ce rapport, on voit sur les vidéos une source de chaleur et de lumière au plafond. 15 secondes plus tard, un client enlève son pull, il frappe le plafond à deux reprises. 3 secondes après, les premiers clients s'enfuient.
Et à ce moment-là, la fumée progresse, des flammes apparaissent.
1h27 minutes 30 secondes. Le flot des fêtards qui remonte l'escalier est dense et ininterrompu. Ils se suivent à la file indienne, se bousculent. 1h28 minutes 21 secondes. Les policiers décrivent les personnes qui ont pris feu, ce sont leurs mots. Les flammes sortent de l'escalier, elles lèchent le plafond. 9 secondes plus tard, les fumées se sont encore épaissies. Le rapport se conclut ainsi. Il est 1h28 minutes et 30 secondes. L'image se fige et se coupe.
Et Aurélien, ces vidéos, elles montrent aussi le rôle joué par le DJ et un vigile.
Dès qu'il aperçoit les premières étincelles, Matteo, le DJ, court dans les toilettes à la recherche d'un extincteur. Stéphane, le vigile, lui, agite sa lampe torche. Il fait de grands gestes pour inciter les clients à s'enfuir, mais tous les demeurent quelques minutes plus tard. Les images montrent aussi un élément important pour l'enquête. Contrairement à ce qu'a dit la presse italienne, selon les policiers qui ont analysé les images, Jessica Moretti ne s'enfuit pas avec la caisse, mais la gérante du bar sort son portable à la main. Enfin, sur d'autres images tournées, cette cette fois par la vidéosurveillance municipale. Les secours arrivent 4 minutes seulement après le début de l'incendie. Et à ce moment-là, sur ces vidéos, les flammes ont déjà disparu.
Merci beaucoup Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. Et vous retrouvez à l'intégralité de ce rapport sur le déroulé de la catastrophe de Crans-Montana sur franceinfo.fr. Vous êtes invité à voter. Je ne vous parle pas des municipales de dimanche, mais des flammes, les récompenses pour les musiques urbaines. Ce sera la playlist de Diane Ferchit après l'Actu Éco. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'Éco avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Et l'économie en trois titres, on commence avec les premiers contrôles des stations-service par les autorités qui portent leurs fruits.
Oui, sur les 513 stations-service contrôlées depuis lundi dans le cadre du plan mis en place par le gouvernement face à la hausse des prix à la pompe, eh bien 5% ont fait l'objet de suites correctives ou répressives. C'est ce qu'annonce le ministre du Commerce, Serge Papin, procédures engagées et amendes infligées en raison d'anomalies constatées sur l'affichage des prix. Serge Papin précise qu'en cas de récidive, les sanctions seront plus sévères et si à cela s'ajoute de la mauvaise foi, eh bien on peut aller jusqu'à 300 000 euros d'amende maximum.
Le prix moyen des voitures électriques baisse en Europe.
Oui, repli constaté pour la première fois depuis 2020. Ce prix moyen s'établit à 42 700 euros selon un rapport de l'ONG Transport et Environnement. Cette étude fait état d'une baisse de 1 800 euros en moyenne entre 2024 et 2025, ce qui contraste nettement avec la hausse de 5 000 euros qui avait été constatée entre 2020 et 2024. Cette révision à la baisse des prix s'explique notamment par la disponibilité de véhicules plus abordables dans le segment B des citadines électriques, comme la Citroën IC3 ou encore la Renault 5.
La plateforme Uber passe un partenariat avec Nissan pour ses robots taxis.
Oui, la société de VTC, les véhicules de transport avec chauffeur s'associe au constructeur japonais mais aussi à la start-up britannique d'intelligence artificielle Wave pour faire ses premiers essais de taxi-robot autopiloté à Tokyo. Premier essai prévu cette année, mais on ne sait pas quand précisément. Nissan intègre déjà les systèmes alimentés par l'IA de Wave dans ses propres voitures.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve sur France Info dans une demi-heure. Ce sera le Brief Éco.
Les professionnels de l'immobilier sont actuellement réunis à Cannes. C'est le MIPIM, le salon international annuel du secteur. Un rendez-vous où l'on parle aussi de la guerre au Moyen-Orient et pour cause, l'immobilier est un des secteurs sur lesquels misent les grands pays de la région, Émirats en tête, pour diversifier leurs économies jusqu'à présent basées sur les revenus pétroliers. Mais on peut dire que la situation s'envenime et complique les choses sur place.
Merci Emmanuel. À tout à l'heure. Il est 5h56 et c'est l'heure de votre playlist du jour, Diane Ferchit. Le vote est ouvert.
Alors, pas pour les municipales, hein. Ça ce sera dimanche, William. Mais pour les flammes, les récompenses des artistes français de rap et des cultures urbaines. Et le public est appelé à voter donc pour son artiste favori parmi tous ceux qui sont sélectionnés. 10 artistes pour chacune des 25 catégories, dont Théodora, pas moins de 9 nominations pour la Boss Lady.
Congolis, baby aimerait sa bite, billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, je maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille.
Théodora qui est déjà repartie avec 4 récompenses aux victoires de la musique, dont celle de révélation féminine. Et pas besoin de carte d'électeur pour faire entendre votre voix aux flammes. Rendez-vous sur le site officiel de la cérémonie, mais aussi sur Spotify qui vous propose d'ailleurs directement la playlist des artistes en lice. Au cas où, William, vous n'auriez pas en tête les titres qui ont le plus séduit cette année, comme Moula Solitude d'Ino Casablanca.
Même si ton cœur est ton pilleur, je pars faire des écus pour me sentir moins mal qu'hier. J'ai pris l'habitude de me faire du mal de mon bipeur. Moula solitude pour me sentir moins mal qu'hier.
De nouveaux artistes, mais aussi des poids lourds du secteur, Gims, Nino ou encore Aya Nakamura. La chanteuse avait d'ailleurs été sacrée artiste féminine de l'année à la toute première cérémonie des flammes en 2023. L'an dernier, ce sont 300 000 personnes qui ont participé à ce vote. Et cette édition 2026 des flammes, ce sera le 23 avril à la scène musicale près de Paris.
Ta gata, ja, ja, genre, en katana, baby, tu dettes ça.
pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja.
C'est dingue, on est automatiquement transporté sur le pont des Arts à Paris avec la garde républicaine qui nous fait sa petite chorégraphie aux côtés d'Ayana Kamoura.
Merci. On s'en lasse pas, hein.
Merci beaucoup Diane Ferchit, c'est l'heure de la météo.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peña, la journée sera assez bien ensoleillée.
Oui, très ensoleillée, envie de danser, tiens, sous le soleil qui s'impose. On a des brouillards, hein, mais ça va se lever. En revanche, on voit arriver très rapidement les nuages par les côtes de la Manche et la Bretagne. D'ici ce soir, d'ailleurs, un peu de pluie en Bretagne sur la pointe. Et puis un vent qui se lève dans le sud, en revanche, le soleil s'impose largement sur l'est du pays également. On a du Mistral qui dévale la vallée du Rhône et puis des températures. Alors il fait froid avec ce ciel dégagé quand même ce matin. Mais cet après-midi, on aura des températures un peu comme hier. On est à peu près dans des valeurs de saison à quelque chose près. 13 degrés à Lille cet après-midi, 14 à Paris comme à Clermont-Ferrand et Dijon, 15 à Strasbourg et Lyon, jusqu'à 18 à Montpellier, Biarritz. Ah, j'ai pas cité Toulon. 17 degrés cet après-midi.
J'allais vous le dire, j'attendais avec patience.
Ça sera la même température qu'à Bordeaux. Et le plus doux, ça sera pour Perpignan aujourd'hui avec 19 degrés.
Bon, vous pouvez revenir alors, Christine Peña. Merci beaucoup. Lui, c'est le soleil de nos matinées. Oh. C'est Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour William. À tout à l'heure dans le journal de 7h. Je suis rentré dans le studio, Christine Nakamura Peña, dansait toute seule.
Bah oui. Je m'en doutais.
Grâce à vous, Diane Ferchit et votre playlist. Bonjour à vous. Bonjour aussi à Sarah Ders.
Bonjour.
Pour le journal de 6h.